Passons sous les radars avec Sébastien Logénie. Sébastien, dans les rues de Lagos ce soir, capitale économique du Nigeria, où un gratte-ciel s'est effondré hier en pleine ville.
C'était un gratte-ciel en construction, un immeuble de 21 étages de haut et qui s'est donc écroulé comme un château de cartes hier matin dans le quartier d'affaires d'Ikoyi, le quartier le plus chic de cette mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants. Un drame qui fait la une dans tout le pays car le bilan pourrait être extrêmement lourd. On parle à ce stade de 15 morts, mais au moment où le gratte-ciel s'est effondré, près d'une centaine de personnes travaillaient à l'intérieur, pour la plupart des ouvriers engagés sur le chantier est pris au piège. Voilà, cet ouvrier miraculé raconte qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, qui faisait des chapes de béton, il y avait des électriciens, des plombiers à l'intérieur, et selon lui, peut-être même le patron de la société propriétaire du bâtiment, car on a retrouvé sa Jeep noire sous les décombres. Depuis hier, les pompiers ont pu extraire quelques survivants des débris, au moyen de 4 pelleteuses seulement, mais des dizaines de familles sont actuellement sans nouvelles de leurs proches, attendant désespérément sur le trottoir en face des restes de l'immeuble. Il pourrait s'agir d'un des pires accidents des dernières années, car le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 200 millions d'habitants, n'en est pas à sa première catastrophe de ce type. Il y a un an, même scénario, même quartier, 8 morts à Ikoyi dans un bâtiment en construction. Mars 2020, 20 morts dans un autre édifice qui abritait une école. Et il y a 7 ans, 2014, le bilan le plus tragique, 116 morts, en cause à chaque fois des matériaux de mauvaise qualité, des défauts de structure et des permis de construire illégaux. Une enquête a été ouverte.
Direction le Nicaragua, où une usine à troll vient d'être démantelée.
Une usine à troll, autrement dit, un groupe organisé d'individus payés pour fabriquer de fausses informations sous couvert de faux profils créés sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'est Facebook d'ailleurs qui a annoncé hier avoir détecté puis éliminé environ un millier de faux comptes qui étaient tous destinés à manipuler le débat public et à soutenir le principal candidat à la prochaine élection présidentielle au Nicaragua. J'ai nommé l'actuel président Daniel Ortega qui brigue un quatrième mandat consécutif dimanche prochain. On entend là le président du Nicaragua, Daniel Ortega, qui se vante du soutien de la Russie, de Vladimir Poutine. La Russie, l'un des rares pays encore à soutenir le régime Ortega, en crise depuis des années. Le scrutin présidentiel de dimanche prochain est en effet très critiqué par toute la communauté internationale. 7 des adversaires de Daniel Ortega ont été emprisonnés, assignés à résidence, tout comme une quarantaine d'opposants. Et c'est sans compter avec les 300 morts dans les manifestations contre le pouvoir il y a 3 ans. Et demi. Cette usine à troll démantelée hier était donc un outil de plus du régime pour déstabiliser l'opinion. Les comptes, les pages Facebook étaient directement gérés par des institutions gouvernementales. La plupart étaient en fait l'œuvre d'employés de la Poste qui travaillaient simplement depuis leur bureau ou de parfois depuis les bureaux de la Cour suprême ou de la Sécurité sociale. L'usine à troll fonctionnait un peu comme un service public des fake news du lundi au vendredi de 9h à 17h en respectant bien sûr la pause déjeuner.
La COP 20 à Glasgow maintenant, qui a connu un sérieux couac hier avec la délégation israélienne.
Oui, la ministre israélienne de l'énergie, Karine Elahar, atteinte de dystrophie musculaire et se déplaçant en chaise roulante, n'a pas pu accéder hier à l'ouverture de la 26e conférence sur le climat. Les bus assurant les navettes vers l'enceinte des Nations Unies n'étaient pas équipés pour recevoir des fauteuils roulants. La ministre a donc dû rentrer à son hôtel. Grosse colère dans les rangs de la délégation de l'État hébreu. On entend là la ministre de l'Environnement israélienne Tamar Zandberg qui rappelle que 15% de la population au monde souffre de problèmes d'accessibilité. Notre collègue en fait partie, dit-elle, nous sommes fiers d'elle d'ailleurs. Et le fait qu'elle n'ait pas pu accéder à la conférence et faire son travail est un incident sérieux. C'est comme une ombre portée sur toute l'idée de cette COP26. Alors le premier ministre israélien Naftali Bennett a dû monter au créneau lui-même. Depuis, les choses se sont apaisé. Le premier ministre britannique Boris Johnson en personne s'est excusé et la ministre israélienne a pu accéder au site aujourd'hui depuis une voiture.
On termine avec la dernière déclinaison de la série à succès Squid Game.
La série ultra-violente sud-coréenne connaît, on le sait, un succès planétaire avec toutes sortes de variations, des masques à l'effigie des personnages, des bonbons comme dans l'un des épisodes, des jeux dans les cours de récréation, et il ne restait plus qu'à inventer une monnaie Squid Game. C'est fait, le Squid a été créé il y a quelques jours afin de pouvoir jouer en ligne, de miser dans une version virtuelle de la série. Bien sûr, la crypto-monnaie spécifiquement inventée pour ce jeu était regardée avec beaucoup de curiosité, de prudence par les experts, car il était visiblement impossible de revendre les jetons de Squid. En une semaine, le cours du Squid s'est enflammé, passant, tenez-vous bien, de 1 cent à 3 359 €. Une flambée très suspecte qui s'est révélée être évidemment une crypto-arnaque totale. La valeur du Squid a perdu 99% de sa valeur en quelques heures. Il semble tout simplement que les créateurs de la monnaie soient partis avec la caisse, l'équivalent quand même de 3 millions d'euros.